grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct ou en podcast. Je dois bien l'avouer, sur certains sujets, j'ai développé une âme de dictateur. Interdire totalement la cigarette dans tous les espaces publics ouverts, même dans la rue comme à Singapour ou dans les jardins publics comme à New York. Mais présentant une émission où la bienveillance est censée le disputer à l'empathie, je dois remiser par-devers moi ces rêves totalitaires anti-tabagiques. Je n'ai jamais fumé de ma vie, sauf deux bouffées d'une clope infâme de la marque au Cowboy, et je ne comprenais pas mon cher grand-père maternel qui fumait un paquet et demi de brune sans filtre pendant les trois quarts de sa vie. Enfin, je ne comprenais pas qu'il s'agissait d'une addiction et qu'il fallait blâmer le produit toxique et non le fumeur. Je ne comprenais pas non plus que fumer restait pour lui une grande source de plaisir, comme le raconte si bien Jean-Jacques Brochier dans Je fume et alors. Vous avez peut-être envie de fumer et vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à arrêter. Vous souhaitez briser les chaînes de cette assuétude, de cette addiction, mais rien ne fonctionne. Vous êtes heureux de fumer, mais une partie de votre cerveau raisonnable vous susurre au creux de l'oreille qu'il serait bon d'arrêter. Vous êtes malade du tabac et vous devez impérativement cesser de vous empoisonner. Mais voilà, vous n'y parvenez pas non plus. Ce matin, nous allons essayer de vous aider avec deux invités, le professeur Amin Benyamina et le professeur Bertrand Dotzenberg. Si vous n'arrivez pas à dire non au tabac, appelez-nous au 01 45 24 7000. Nous verrons également quelle est l'efficacité des cigarettes électroniques. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin de grand bien vous fasse, vous vous sentez concerné par notre sujet?
Bon, tout petit peu.
No comment. Quoi de neuf dans votre chronique tout à l'heure? Vers 10h35.
On va parler tabac justement, mais on va parler tabac et écologie.
A tout à l'heure Baptiste Beaulieu, bienvenue dans Grand bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Et pour nous délivrer quelques pistes pour arrêter de fumer, deux invités. Bonjour Bertrand Dotzenberg.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes professeur émérite de pneumologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, tabacologue, et vous avez publié Le plaisir d'arrêter de fumer chez First Edition dans une édition ultra poche à 2,99€. C'est la moitié du prix d'un paquet de cigarettes.
Le tiers.
C'est ça, hein, le tiers même. Bon, je fume pas, donc je n'ai pas les prix.
Bonjour. 10 euros et quelques.
Bonjour, professeur Amin Benyamina.
Bonjour, Ali.
Vous êtes professeur de psychiatrie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et vous êtes addictologue. Alors, professeur Dotzenberg, 6 millions de fumeurs en moins en 2 ans, selon les baromètres annuels de Santé publique France. Non, c'est pas 6 millions. Je m'aperçois en vous le disant que je me suis trompé. C'est plutôt 1,6 million. Pardon. Voilà. 1,6 million de fumeurs en moins en 2 ans, selon les baromètres annuels de Santé publique France. Il s'agit d'une baisse d'ampleur inédite de l'ordre de 12% en 2 ans. Vous devez jubiler, non?
On est content, mais la France reste parmi les plus gros, le pays où on fume le plus en Europe. Donc on part de très très loin. Donc quand on est très mauvais, c'est plus facile de s'améliorer que quand on est meilleur. Donc il y a une baisse du tabac qui est inexorable dans le monde entier, mais la France est très très en retard. On a des taux de tabagisme qui sont très élevés en Australie, Nouvelle-Zélande, même États-Unis et tout ça. Les taux de tabagisme sont 2 fois inférieurs aux taux français. Même les Anglais aussi sont bien inférieurs.
En fait, j'ai dit 6 millions, mais c'est mon rêve qu'un jour il y ait 6 millions de fumeurs.
Il faut mieux 13 millions, puis c'est fini.
Exactement. Comment expliquer cette baisse du nombre de fumeurs en France? Est-ce que la hausse du prix du tabac commence à faire sentir ses effets?
Alors, il y a différents éléments. Il y a la hausse des prix du tabac qui joue un rôle. Il y a la dénormalisation du tabac. Le tabac, maintenant, c'est un produit sale pour tout le monde. C'est-à-dire que les paquets avec les images dessus et tout ça, même le buraliste le plus acharné, il sait qu'il vend pas un produit sain alors qu'il savait pas bien avant, même si on regarde pas chaque image. Donc, et pour les jeunes, le tabac et en particulier la cigarette devient un produit qui est pas un produit cool, qui est pas un produit ringard. Et ça, c'est l'arrêt total de la publicité, de la promotion pour la cigarette qui a été obtenue aussi avec la réglementation. Donc, le prix, c'est une chose, mais c'est un ensemble de facteurs qui est efficace. Et puis, l'aide à l'arrêt, maintenant, arrêter de fumer, c'est gratuit. Tous les substituts sont remboursés à 100%, ce qui est bien normal, parce que la dépendance tabagique, c'est une maladie qui tue la moitié des gens qui en sont atteints et qui fait perdre 15 années de vie aux gens. Donc, c'est bien normal. L'assurance maladie rembourse une maladie qui tue 50% des gens.
Vous militez, vous, pour le paquet de cigarettes à 10 euros?
Bah pour 10 euros, mais ça c'est l'année prochaine. Après, il faudra continuer à monter également.
Jusqu'à combien, tiens?
Il n'y a pas de limite. Hein. Moi, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus de fumeurs en France, mais de le faire, non pas par la prohibition, parce que ça ne marche pas, mais par le changement d'image sociale et de progresser pas à pas. Pour l'instant, des moins 10% par an, c'est bien.
Professeur Amine Benyamina, vous militez aussi pour le paquet à 12, 13, 15 euros, 20 euros, pourquoi pas?
Le prix du tabac a bien montré qu'il avait une efficacité réelle sur la diminution du nombre de fumeurs et surtout, ça dissuade l'entrée des jeunes dans la cigarette, ça c'est important. Peut-être un élément supplémentaire par rapport aux arguments que Bertrand a développé sur finalement cette réussite de politique, même si on part de loin, c'est que pour ce qui est du tabac, on a une convergence de positions, aussi bien des pouvoirs politiques qui mettent en place une politique de prévention ou bien et que sur la vox populi, ce qui n'est pas le cas par exemple pour l'alcool. On entend encore des effets positifs de l'alcool, on a encore des arguments,
du vin en particulier.
C'est l'effet des lobbies. Hein.
On a réussi
à tuer les lobbies du tabac.
Et donc pour ce qui est du tabac, le travail de, non pas de diabolisation, de montrer à la politique des lobbies, s'est éprouvé à ce moment-là. On a vu qu'on avait des faux scientifiques, on avait des faux rapports, on avait des gens qui avaient en quelque sorte corrompu et noyauté les pouvoirs politiques et publics. Personne n'est dupe et le tabac est mauvais. C'est ce qui montre une convergence de vues et une politique qui peut se mettre en place plus facilement.
Le tabac est mauvais, on le sait, professeur Dotzenberg. Pouvez-vous nous dresser un tableau des risques pour la santé quand on fume tous les jours en moyenne 13 cigarettes? 13 cigarettes, c'est la moyenne quotidienne selon Santé publique France, moyenne en 2018.
D'abord, une bouffée d'une cigarette apporte autant de particules fines que de rester une journée dans Paris pollué. Donc si vous prenez 15 bouffées d'une cigarette, c'est 15 fois l'alerte à la pollution. Et 13 cigarettes, ça fait 15 fois 23, 300 fois l'alerte à la pollution. Donc si vous êtes écolo, vous fumez pas. On n'a jamais vu un écolo avec une pipe ou une cigarette, ce serait un schizophrène hein, qui fait le contraire de ce qu'il pense. Et après, le corps n'aime pas du tout la fumée, que ce soit la fumée de cigarette, de cannabis ou de pot d'échappement des voitures ou d'un feu de bois d'ailleurs. Hein. Le tabac est toxique. Non pas tellement par la nicotine, qui est vraiment très peu toxique, mais par la fumée. Il ne faut pas fumer ce qu'on prend.
Et puis on retrouve 4000 substances toxiques dans une cigarette.
4000 substances, elles ne sont pas toutes toxiques, mais il y a 4000 substances, il y a plein de cancérogènes. Et en gros, quand on fume toute sa vie, on a une chance sur deux d'en mourir. Donc 50% de chance d'en mourir. Il y a des gens qui font des bêtises, qui jouent à la roulette russe, ils prennent un pistolet, ils mettent une balle, ils se tirent dans la tête, une chance sur 6 de mourir. Le fumeur, il met 3 balles pour se tirer dans la tête. Quand on joue à la roulette russe, faut mettre qu'une balle, faut pas mettre 3 balles, hein. C'est vraiment pas raisonnable. Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui fument maintenant sont des gens qui fument malgré eux. C'est-à-dire qu'ils ont été contaminés, on a inoculé dans leur cerveau, quand ils étaient adolescents, des récepteurs nicotiniques. Et l'industrie du tabac marque de ces documents, notre métier, c'est d'inoculer dans le cerveau des adolescents la dépendance nicotinique, de façon à que toute leur vie nous donne leur argent. Sinon, on est foutu. Donc c'est une industrie industrielle voulue par des gens qui ont été condamnés pour activité mafieuse, de contaminer les enfants, c'est dommage.
Professeur Amine Benyamina, comment fonctionne cette dépendance nicotinique?
C'est le même mécanisme qu'on a eu l'occasion de présenter dans l'émission, c'est-à-dire c'est un produit qui vient stimuler une zone dans le cerveau, qui va produire des substances et qui vont d'abord provoquer du plaisir, ensuite qui vont venir modifier la cinétique et puis la chimie du cerveau, et lorsqu'on arrête de consommer, on sent le manque. Pour ne pas trop, c'est la rentrée, pour ne pas trop lasser les auditeurs. La nicotine ou le tabac, parce qu'il n'y a pas que la nicotine, en général, a un effet beaucoup plus important que les autres produits addictifs. Même si on met sur le banc des essais l'alcool ou le cannabis, on a tendance à penser que la nicotine, ce qui est vrai, a un effet addictogène qui est comparable à celui de l'héroïne. Simplement, la diffusion de l'héroïne est bien moins importante et bien moins présentée sous de bons dehors que ne l'a été la cigarette pendant très longtemps.
Alors un cancer sur 3 est lié au tabagisme et en moyenne un fumeur régulier sur 2 meurt de son tabagisme. Mais est-ce qu'on peut parler d'une autre maladie grave, professeur Dotzenberg, très handicapante? Je pense à la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui touche pas mal de fumeurs.
Oui, les fumeurs ont peur un petit peu des maladies dont on meurt vite, comme le cancer ou l'infarctus du myocarde. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont atteints du tabac, qui font un accident vasculaire cérébral, qui se retrouvent hémiplégiques pour des années, qui ont la BPCO. La BPCO, c'est l'incapacité qu'on a après de respirer. On est de plus en plus essoufflé et ces gens-là sont très déprimés, très dépendants et n'arrivent encore moins que les autres arrêter de fumer, parce qu'on a sélectionné les gens qui étaient les plus addicts. C'est pour ça qu'il faut les aider et en fait leur apporter leur dose de nicotine. Et moi, je suis émerveillé comme de la façon dont quand on remplace parfaitement la dose de nicotine apportée par la cigarette par d'autres sources de nicotine, hein, je dis des croquettes de nicotine entre guillemets, que ce soit des pales, du champix, des cigarettes électroniques, n'importe quoi, tout ce qui est pas fumé, ça améliore les choses. Parce que la cigarette donne des pics de nicotine, chaque pic de nicotine donne envie de fumer la suivante. C'est comme quand je me gratte 15 fois, ça va me donner envie de me gratter. Alors que les autres formes de nicotine, c'est des caresses, c'est doux, donc ça apporte, ça satisfait, ça supprime le manque, mais ça donne pas envie de fumer la suivante.
Pourquoi les paquets neutres de cigarettes avec ces horribles photos n'incitent pas beaucoup les fumeurs à arrêter? Certains fumeurs s'en fichent, sont dans le déni, Amine Benyamina?
Non, mais c'est ce que vient de dire Bertrand, nous sommes dans une addiction extrêmement forte, et puis les éléments objectifs ne viennent pas contrecarrer la force de l'addiction de ce produit. Il vous dit, nous connaissons les effets, nous connaissons les risques, et malgré tout, il y a une espèce d'aveuglement, d'aveuglement lié aux effets. J'ai une anecdote rapide, Ali. À l'hôpital Popos, au départ, on a un grand service à côté de Grève du Foie, avec des personnes qui viennent avec des problématiques, alcool, tout ça. On avait un patient qui était en quasi stade terminal d'un cancer du foie, qui continuait à consommer son tabac. Donc on a même eu quelques accidents. C'était extrêmement difficile. On a eu beau le patcher. Ce qu'il voulait, c'était les shoots de nicotine, comme ça a été évoqué tout à l'heure.
Baptiste Beaulieu.
Oui, j'ai une question, parce que j'ai appris la réponse au cours de mes études, mais longtemps, j'ai pensé que c'était dose dépendant, que si je fumais que 2 cigarettes par jour plutôt que 10, c'était meilleur pour ma santé. Peut-être...
Meilleur, alors, peut-être pas.
Moi, meilleur, je suis pas sûr.
Ça dépend sur quelle maladie. Sur le plan cardiovasculaire, sur le risque de faire un infarctus, une thrombose ou un accident vasculaire cérébral, fumer 2-3 cigarettes, fumer 20 cigarettes, c'est quasiment pareil. La courbe monte très très vite et après est stable. Parce que le tabac crée une inflammation de l'organisme et toutes les maladies inflammatoires favorisent ces maladies. Donc il n'y a pas de... Quelle est la bonne dose de cigarette? C'est zéro. Une bouffée, déjà, paralyse les cils.
Bonjour Fabienne Sintès.
Bonjour.
Présentatrice, productrice du 18-20 d'Inter. Vous avez arrêté de fumer à maintes reprises.
Alors non, enfin je suis l'appartement témoin de la difficulté que ça représente en fait, parce que tout ce que j'entends autour de la table, tout ça évidemment est frappé au coin du bon sens, et tous les gens qui sont fumeurs le savent pertinemment, et ça a été rappelé, le prix en soi, évidemment plus c'est cher, plus c'est ennuyeux, mais c'est pas vraiment un argument. Évidemment qu'on a tous le sentiment d'être immortel, donc ce sera un autre et ce sera pas nous. Toutes ces maladies que vous citez, évidemment qu'on ne les aura pas, etc., etc. Donc c'est je sais pas comment ça se passe dans le cerveau des fumeurs, mais on a tous le sentiment qu'on passera au travers ça. Donc c'est autre chose en fait, c'est un autre déclencheur. Mais effectivement, oui, c'est difficile. Et moi, il y a une chose que j'ai appris en fait. Moi, j'ai arrêté il y a un an et demi. J'ai refumé quelques clopes cet été, donc je me suis remise dans le droit chemin au début de l'année. Je considère que je considère que je suis non-fumeuse quand même depuis un an et demi en fait, et que je recommence pas à zéro. Je veux pas dans ma tête me dire que je recommence à zéro comme si j'avais foutu en l'air un an et demi d'effort. Ce que j'ai appris en revanche, c'est que moi je jongle avec les méthodes en fait. Je me suis fait hypnotiser une fois. C'était il y a longtemps, ça avait marché pendant 6 mois. Je suis revenue avec une méthode plus classique, j'ai été patchée, j'ai gobé des croquettes, comme vous dites, professeur aussi, etc. Et puis, en y revenant là, je me suis refait hypnotiser, la raison étant que j'avais le sentiment à ce moment-là que le problème de ce que je considère encore comme une mini-rechute, c'était pas la nicotine. On est en plein été, tout va bien, je suis en vacances, je vais bien, j'ai mes amis autour, la vie est belle, il n'y a pas de stress professionnel notamment. Donc j'ai pas eu le sentiment de répondre à un stress particulier, et donc à une envie de shoot de nicotine. C'est peut-être le cas, c'est pas le sentiment que ça m'a donné. Donc je me suis dit que pour me remettre dans le droit chemin, au fond, il fallait que j'aille chercher quelque chose d'autre. Et je me suis fait réhypnotiser à ce moment-là. Et je croise les doigts, c'était il y a 15 jours, et jusque-là, tout va bien.
Professeur Dotzenberg.
Il y a deux raisons pour lesquelles on fume. Un, qui est la dépendance nicotinique. Et en gros, dès qu'on fume dans l'heure du lever le matin, c'est 100% de dépendance physique à la nicotine. Et puis après, il y a les cigarettes qu'on prend entre amis le soir avec un verre ou avec quelque chose, qui sont comportementales. Le problème, c'est quand on a une dépendance physique, ça masque complètement les dépendances comportementales. Donc moi, mon attitude avec tous mes fumeurs, La première semaine, je traite complètement la dépendance physique en disant que pendant ce temps-là, vous fumez autant que vous voulez, vous faites aucun effort pour ne pas fumer, etc. Puis la semaine prochaine, on va voir ce qui reste et un peu ce qui est comportemental. Le danger, quand on a été fumeur du matin, de reprendre quelques cigarettes, si on fait ça un jour, une fois, ça peut marcher, surtout si on veut la bloquer. Mais après, le risque de rechute des fumeurs est important.
Qu'est-ce qui fait que
Fabienne j'aime pas dans son attitude, c'est qu'elle dit « je suis revenu dans le droit chemin ». Mmh. Le fumeur, il n'est pas dans le droit chemin. Le fumeur qui fume le matin, c'est pas un problème de droit chemin, c'est pas un mauvais garçon. C'est une fille qui a été victime.
Alors moi, je suis fumée du soir, par ailleurs. Et d'ailleurs, c'était non, non, mais je vous promets. Et moi, j'ai eu le sentiment, et c'est terrible. Hein, je reconnais que j'avais la nostalgie du plaisir. Je peux le dire comme ça. J'avais la nostalgie du plaisir.
Il y a peu de fumeurs qui ont plaisir à fumer. La plupart des fumeurs ont des plaisirs à être en manque de nicotine, et ça supprime le plaisir. Ah. Alors il y a quelques fumeurs effectivement du soir avec un verre avec des copains, tout ça, qui s'est associé à des choses mémorielles, mais c'est l'exception.
Qu'est-ce qui fait que Fabienne Sintès ne rechutera pas?
Elle rechutera pas si elle décide de pas en prendre. Si elle veut choisir la facilité, faut toujours faire les choses faciles dans la vie, pas se casser la tête avec les choses stupides. C'est en prendre zéro. Zéro, c'est facile. En prendre une ou deux et puis re-arrêter, ça c'est vraiment casse-gueule et difficile.
Ce qui est intéressant, c'est que Fabienne Sintès vient de résumer avec ses mots à elle, pour que tout le monde l'entende, le mécanisme de l'addiction, les difficultés de prendre en charge une personne dépendante. Parce qu'on voit bien le discours de bon sens qu'on insère en tant que scientifique. On l'entend pas malgré tout. On a affaire à une personne dans un environnement. Il y a du plaisir, il y a des images, il y a du comportement, il y a de la biologie. Mais tout ça, c'est la raison pour laquelle dans les addictions, les thérapies non médicamenteuses ont un effet extrêmement intéressant. Vous parlez de l'hypnose, il y a les thérapies cognitives et comportementales. Tout ça joue aussi à côté des substituts.
Merci beaucoup Fabienne Sintès. C'est quoi le programme du 18-20 tout à l'heure?
Ce soir on parlera d'Algérie et au téléphone sonne, on parle de rentrée des classes. Évidemment on va parler de la relation entre les parents et les profs.
À tout à l'heure Fabienne Sintès, merci d'être passée dans le studio de Grand Bien vous fasse. Alors si vous n'arrivez pas à arrêter de fumer, si vous avez arrêté et repris 10 000 fois, appelez-nous au 01 45 24 7000. Et si vous avez réussi, dites-nous comment vous avez fait. Claire Destacan, Clara Marliot et Julia Macaré m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation Stéphanie Texier. Alors, on écoute un titre de 1963, Fabienne Sintès n'était pas née. Cette année-là naissait le réalisateur Quentin Tarantino et disparaissait l'écrivain Aldous Huxley. Belle journée à l'écoute de France Inter. Oh, The Kingsman intéressait Louis Louis.
Oui, j'ai été fumeur. Oui, j'ai été dans l'erreur. Oui, j'ai été un minable. Une loque, à moins que rien.
Grand bien vous fasse.
Mais je veux guérir parce que je veux m'en sortir.
Sur France Inter.
10h24, comment arrêter de fumer, c'est notre thème ce matin. Question témoignage 01 45 24 7000.
Ouais, la clope. Quand je vois cette cigarette, je me dis, mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça? Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. Alors mes copains, ils en reviennent pas. Ils me demandent tous, ils me disent tous, mais comment t'as fait, quoi? Comment t'as fait? Nous, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'arrive pas. Comment t'as fait? Je dis, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette? Il y a un mot, la volonté, ok? Parce que toutes vos conneries, genre, on va commencer progressivement. Aujourd'hui, je prends une taf, demain deux taf, après demain une demi-cigarette. Ou bien, ouais, dans une semaine, je vais aller me faire coller des patchs pour m'habituer à la nicotine, petit à petit. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Tu veux commencer la cigarette, si t'es un homme, tu te réveilles un matin, tu dis « Je commence !» Et tu commences.
Extrait d'un sketch de Gad Elmaleh, professeur Bertrand Dotzenberg. Je rappelle que vous êtes pneumologue et tabacologue. Je vous ai lu dans Le plaisir d'arrêter de fumer. Je vous cite « Prenez la motivation, l'effort, le changement de comportement en mettant la pression sur le fumeur alors que celui-ci est en manque de nicotine, relève du sadisme plus que de la médecine. »
Oui.
C'est fort.
Oui, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on demande aux fumeurs, qui sont des victimes, et on leur dit, vous êtes responsable de votre maladie. À partir du moment où vous avez quelqu'un, vous lui expliquez qu'il est victime de la dépendance tabagique, qu'on va complètement substituer la dépendance tabagique, et qu'après on verra, il revient vous voir avec 3-4 cigarettes, et dit, bah oui, c'est que 3-4 cigarettes, quand je les fume, elles sont pas bonnes, et il peut se contrôler. On peut pas contrôler par la volonté des choses qui dépendent pas de la volonté. Le soir, quand vous avez sommeil, c'est votre cerveau qui dit j'ai sommeil, mais c'est pas vous qui voulez leur sommeil. Quand vous voulez la cigarette le matin au réveil, c'est que vous êtes en hyponicotinémie. Quand vous êtes en hypoglycémie, vous prenez un sucre. Quand vous êtes en hyponicotinémie, il faut prendre de la nicotine, point. Et après, on discute. On ne va pas demander à quelqu'un en hypoglycémie de faire de la psychologie.
Et pour vous, dans les stratégies pour lutter contre le tabac, bah, il faut réhabiliter le plaisir et le bien-être du fumeur.
Oui, tous les gens que je vois en consultation, quand je leur explique qu'il faut pas faire d'efforts, que le plaisir est obligatoire et que la première semaine, ils sont obligés de fumer, je le marque sur mon ordonnance, fumez autant que vous voulez, ne faites aucun effort pour fumer moins, il y en a pas un qui résiste. Là. Tous, ils acceptent le principe.
Emma nous dit par courriel, ma technique a été, le jour où j'ai souhaité arrêter de fumer, d'acheter un paquet et de le garder avec moi 24 heures dans mon sac, sur mon bureau, sur ma table de nuit, avec l'idée de ne pas l'ouvrir, mais sans me l'interdire, si vraiment je ne tenais plus, il restait mon compagnon principal. Au bout de 2 ans, j'ai refilé le paquet tout cabossé, mais jamais ouvert un taxeur dans un café. Amine Benyamina.
C'est pas étonnant, c'est le principe du compromis psychologique qu'on met en place. On a le sentir, il y a une espèce de phobie à ne pas voir la cigarette à côté. Et puis ça permet, c'est un sas dans lequel on se met, ça permet petit à petit de se dissocier finalement sa vie de tous les jours de la consommation du tabac. En dehors de l'aspect biologique sur lequel Bertrand a beaucoup insisté, il y a le comportement, il y a l'habituation, il y a le conditionnement. Vous savez, les tabacologues et la tabacologie dans le monde depuis 20 ans a développé des stratégies comportementales, notamment par exemple l'entretien motivationnel et comment, qui sont remarquables et qui maintenant nous aident, que c'est un outil qui nous aide dans les addictions et parfois dans des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension. On a affaire à des gens qui supportent plus leur maladie, qui ne veulent pas prendre leur traitement. Et on sait que ce mécanisme par lequel on a réussi à sortir les gens finalement de l'abîme du tabac, eh bien, il est important dans des maladies pareilles.
Bonjour Mélina, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous avez tenté d'arrêter de fumer à plusieurs reprises. Vous fumiez depuis l'âge de 13 ans, je parle au passé. C'est toujours le cas, vous ne fumez plus?
Je ne fume plus.
Alors, qu'est-ce que vous aimiez d'abord dans l'acte de fumer? Parce qu'on a parlé de plaisir là avec le professeur Dotzenberg. C'est quoi? Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous fumiez?
Alors oui, un plaisir, mais j'ai envie de dire un plaisir physique en fait. Mmh. C'est pas tellement le plaisir psychologique, parce qu'on sait, même si on adore fumer, on sait parfaitement que c'est pas bien. Donc il y a ce plaisir coupable en fait. Mais après, c'est au-delà de ça, moi c'était un plaisir physique. La première bouffée, c'est celle qui détend, c'est celle qui nous fait nous sentir bien mieux, c'est celle qui nous permet de couper avec ce qui nous a perturbés et nous a donné envie quand on parle de stress, c'est ce qui nous a donné envie d'allumer une cigarette. Et c'est ce qui associe aussi, c'est le plaisir qui est associé justement au tabac festif. C'est-à-dire, comme le rappelait Fabienne tout à l'heure, c'était l'été, elle a refumé quelques cigarettes parce qu'elle était bien, parce que c'était un moment de détente et de plaisir qu'on associe à la cigarette.
Cette fois, c'est la bonne ?
Cette fois, c'est la bonne.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que c'est... Je pense que c'est dû à l'histoire que j'ai eue avec la cigarette. Mmh. Je pense qu'on en a tous une et qui fait aussi qu'on a tous X façons d'arrêter et que aucune méthode, pas celle du voisin, va fonctionner sur nous. Moi, je sais que c'est la bonne parce que j'ai mis à peu près 15 ans à arrêter de fumer. C'est que j'ai considéré tous les arrêts et les rechutes, enfin... les recommencements, comme un chemin vers l'arrêt qui a été définitif, je pense, à peu près il y a un an. Je dis je pense parce que j'ai pas sacralisé le moment, comme on fait souvent, comme j'ai eu fait par le passé, c'est-à-dire on note dans un carnet, on se le note dans le téléphone, j'ai arrêté de fumer le... et depuis, je n'ai pas fumé X cigarettes, je n'ai pas dépensé X euros. Moi, j'ai arrêté et je ne me souviens quasiment plus du jour, ni du moment, ni pourquoi. C'était mûri.
Quelle méthode avez-vous essayé cette fois, Mélina ?
Aucune.
Aucune, d'accord.
Cette fois-là, aucune.
Donc, c'est pour vous une histoire de volonté. Du jour au lendemain, vous avez décidé d'arrêter, même si le professeur Dotzenberg nous a dit tout à l'heure que la volonté, c'était un peu compliqué hein, quand on décidait, entre guillemets, de fumer.
Encore une fois, il n'y a pas eu de jour au lendemain. Il y a eu un long cheminement, je pense, je l'analyse, parce que je pense aussi que c'est ça qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a permis, je pense, d'arrêter sereinement. C'est le long chemin que j'ai pu faire avec la cigarette à travers les arrêts, les rechutes, et à chaque fois, une analyse un peu plus poussée de pourquoi tu fumes, de à quelles circonstances, de ce que ça te procure, de pourquoi tu reprends. Il n'y a pas eu de jour au lendemain. Il y a eu un jour, je pense, ce jour-là, donc comme je vous dis, je m'en souviens plus, à se dire, c'est fini quoi. Enfin, c'est juste, il y a tout d'un coup plus le réflexe d'aller vers le paquet, il y a tout d'un coup plus ce moment où on se dit, bon, j'ai fini ça, je vais en fumer une et puis je vais faire autre chose, ou ça s'est mal passé au boulot, je vais en allumer une, ou une tarde. Voilà, c'est. Je crois que si ça a été aussi simple, parce que j'ai trouvé ça simple, de ne plus fumer. Je ne peux pas dire arrêter, c'est juste que je me suis mise à plus fumer.
Bertrand Rosenberg, sur le témoignage de Mélina.
Premièrement, sur la dépression, le stress et l'angoisse, le tabac est une cause de dépression, plus 40%, est une cause de stress, est une cause d'angoisse. Arrêter de fumer améliore autant la dépression que de prendre de la nafranil dans les essais thérapeutiques. Donc le tabac calme la dépression, mais qui est induite par la cigarette qu'on a pris 40 minutes avant. Donc c'est un petit peu, je me gratte, et ça me gratte parce que je me gratte, et etc. Donc non, c'est vraiment le tabac qui est responsable. Donc,
si on va deux petites remarques, rapidement. Plus de 90% des personnes arrêtent de fumer sans aide extérieure. Il faut l'avoir en tête. C'est comme ça. Sur le plaisir qui vient d'être évoqué, c'est un élément extrêmement important. Si on donne des cigarettes à des personnes qui n'ont jamais fumé, elles ne ressentiront pas le plaisir qui vient d'être décrit. En revanche, ce qui est inconscient, c'est l'évitement du déplaisir qui est perçu comme du plaisir. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce n'est pas du plaisir provoqué directement. C'est l'histoire de la cigarette dans la personne qui est perçue comme étant du plaisir. C'est pas du sucre, c'est pas de la glace, c'est pas de la pâtisserie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on fait en thérapie cognitive pour pouvoir défaire un peu ces nœuds, ces pensées dysfonctionnelles et qui permettent aux gens de s'en sortir.
Mélina, restez avec nous. Hein. Vous êtes un peu notre fil rouge en tant que personne qui a réussi, en tout cas pour le moment, d'arrêter de fumer. Question de Baptiste Beaulieu.
Du coup, j'imagine, est-ce qu'il y a des études qui montre que arrêter brusquement maximise les chances du fumeur par rapport à celui qui va arrêter progressivement ou l'inverse.
Arrêter progressivement, ça dépend de ce qu'on appelle progressivement. Si c'est arrêté en 15 jours, c'est rapidement.
D'accord.
Ça, il n'y a pas de souci. Il faut bien se substituer, arrêter. Après, ceux qui veulent seulement diminuer, il y a souvent une grande souffrance de diminuer. Il n'y a pas de bénéfice sur la santé évident de diminuer. Il y a un des moyens qu'on n'a pas abordé quand même pour arrêter aussi progressivement rapidement, c'est la cigarette électronique.
On va y revenir tout à l'heure. On va revenir sur le cas de la cigarette électronique. Mais est-ce qu'il existe des méthodes qui fonctionnent plus que d'autres quand on veut arrêter de fumer?
Oui, il y a des essais qui sont faits. On a un compromis qui s'appelle la Varenicline qui est remboursé, qui multiplie par 3 ou 4 l'arrêt du tabac. On a les substituts nicotiniques quand ils sont bien donnés aussi, sont très efficaces, mais ils sont pas efficaces à 100%. Donc c'est toujours l'association des médicaments et d'une prise en charge, surtout pour les dernières cigarettes, et puis pour parachuter aussi, parce que la moitié des gens qui arrêtent de fumer tout seul, ils rechutent après. Et quand il dit qu'Amine dit que la plupart des gens n'ont pas vu de médecin, mais beaucoup ont pris des substituts, ont pris la cigarette électronique.
Effets secondaires comme le médicament Champix. Effets secondaires.
On a eu à un moment donné une polémique qui a tourné autour du Champix, mais très clairement, il n'y en a pas. Il y a eu quelques. Quelques personnes vulnérables qui ont présenté des pathologies dépressives et des risques. On est bien d'accord. Alors, ce qui est intéressant dans l'arrêt progressif, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt particulier vis-à-vis de la cinétique, mais ça a un intérêt. C'est la période au cours de laquelle on fait un vrai travail de motivation. Ça a un intérêt psychologique, ça permet aux gens de commencer à faire le deuil du tabac.
Comment se passe une consultation en tabacologie? Je crois qu'il en existe environ 600 partout en France qui prennent les fumeurs dépendants. Comment ça se déroule, professeur Dotzenberg?
La plupart des gens qu'on voit en consultation de tabacologie, c'est des gens qui fument dans l'heure du lever, donc ont une dépendance physique. C'est le critère pour définir des dépendances physiques, en plus de la dépendance psychologique. Et c'est des gens qui sont un petit peu plus âgés que la moyenne, c'est-à-dire qu'on est plutôt vers les 40 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, on a essayé tout seul 2-3 fois, puis ça n'a pas marché. La plupart des gens qu'on a vus ont déjà essayé autre chose. Un tiers des gens qu'on voit, par exemple, ont soit de la dépression, soit de l'anxiété, ont déjà reçu des traitements, ont eu des pathologies. Donc on a des gens un peu plus sérieux. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on les écoute d'abord, qu'on fait un traitement qui dépend de chacun et on fait le traitement qu'il faut pour chacun. Donc on a toute une gamme d'outils, mais on fait du sur-mesure. Et avec du sur-mesure, ça marche mieux que si on ne fait pas de sur-mesure. Moi, ma technique, premier temps, c'est je pèse toujours les patients, parce que quand on arrête avec plaisir, sans effort, on prend pas de poids. Beaucoup de gens ont peur d'arrêter de fumer. Quand on arrête de fumer, c'est qu'on arrête de fumer en faisant des efforts, on est de mauvaise humeur, quand on emmerde tout le monde, etc. C'est qu'on arrête de fumer comme un nul. Il faut mieux arrêter de fumer en sachant, en se substituant bien. Les gens ont peur de la nicotine. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils en prennent moins qu'avec la cigarette, où là, ils n'ont pas peur. Et la nicotine vient du même champ de nicotine. Donc, après une semaine où on substitue bien en nicotine, après on voit ce qui reste, et chaque personne est un petit peu différente, mais on insiste en général pour qu'ils aient la bonne dose de traitement, et les dernières cigarettes, une par une, on va les supprimer après. Mais ça va assez facilement à partir du moment où elles ne sont pas bonnes. Une cigarette qui est bonne jusqu'au bout, c'est qu'on est sous-dosé en nicotine. Une cigarette qui est mauvaise après 5 bouffées, c'est qu'on est bien dosé en nicotine.
Allez, il est temps de retrouver la chronique de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Alors voilà la chronique du médecin de Grand Bien Vous Fasse, Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, parce qu'on a beaucoup parlé là aujourd'hui des effets du tabac, que ça encrassait les artères, que ça encrasse les poumons, que ça cause infarctus AVC, etc., etc. Il n'est jamais inutile de le rappeler, mais on le sait, je crois globalement, on le sait, c'est illustré sur les paquets. Pourtant, il y a un autre effet du tabac dont on parle peu, et à l'heure de ce que beaucoup... Moi, notamment, espère être une prise de conscience globale des enjeux climatiques et écologiques. J'avais à cœur de nous rappeler quelques faits essentiels. Alors, je précise, vous trouverez les sources sur le site de France Inter. Oui, l'industrie du tabac, elle impacte d'abord et colossalement l'environnement. Parce que pour fabriquer le filtre et le papier de nos cigarettes, ce sont chaque année près de 60 millions d'arbres qui sont coupés. Pour allumer nos cigarettes, il faut des allumettes. Donc évidemment, 10 millions d'arbres coupés supplémentaires. Poursuivons. Les terres utilisées pour cultiver le tabac sont tellement épuisées par les pesticides et les engrais qu'un sol sur lequel a été cultivé du tabac devient définitivement infertile. On estime à 20 millions le nombre de personnes qui pourraient être nourries si on cultivait des céréales à la place du tabac. On peut citer également la transformation et le transport du tabac depuis le champ jusqu'à nos bureaux de tabac qui contribuent aux émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique. Il y a les emballages aussi, les emballages des paquets de tabac qui contribuent eux aussi à la surproduction de déchets et à la déforestation globale. Les mégots, enfin, qui sont retrouvés dans la nature, qui polluent durablement les sols, qui bouleversent de nombreux écosystèmes et contribuent à l'extinction des espèces, particulièrement les espèces marines, parce que la mer, c'est l'endroit où les mégots sont le plus retrouvés, près de 800 tonnes chaque année. Et il faut compter 5 ans pour qu'un mégot disparaisse. Alors, je ne sais pas vous, mais je trouve ça chouette de savoir qu'en plus de son espérance de vie personnelle, arrêter de fumer peut aussi contribuer à augmenter l'espérance de vie de notre belle planète bleue. si ça, c'est pas une motivation supplémentaire.
La chronique de Baptiste Beaulieu à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, comment arrêter de fumer, c'est notre thème ce matin. Comment y êtes-vous arrivé ou pas? 01 45 24 7000.
Si je suis encore vivante, sinon quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
Clara Luciani interprétait Bovary.
Vous êtes nerveux. Vous voulez arrêter de fumer?
Grand bien vous fasse.
Démerdez-vous.
Sur France Inter.
10h41, comment arrêter de fumer, c'est notre thème ce matin. Question témoignage au 01 45 24 7000. Énormément de courriels et de messages sur notre page Facebook ce matin. Frédéric nous dit, à chaque fois que j'avais envie de fumer, je me répétais dans ma tête, pourquoi veux-tu fumer? Tu vas avoir une mauvaise haleine, tu vas sentir le tabac sur tes mains, tes vêtements, tu vas tousser, tu risques d'avoir un cancer, tu vas abîmer ton système respiratoire. Depuis, je ne fume plus, l'odeur de la cigarette me dégoûte. Marc nous dit, je fais beaucoup de sport, je fais du vélo tous les jours, je mange sainement et j'habite sur la côte bretonne, mais je fume une et des fois deux cigarettes par jour. Est-ce que je suis exposé au même risque qu'un gros fumeur, professeur Dotzenberg?
Si toute sa vie on n'a jamais fumé qu'une ou deux cigarettes par jour, il y a moins de risques que de fumer deux paquets par jour, bien entendu. Si c'est quelqu'un qui a fumé un paquet par jour et qui est passé une ou deux, il y a un risque majeur, c'est qu'il repasse à son paquet ou ses deux paquets par jour. Une cigarette par jour, si on ne fume pas le matin, il y a un risque pour la santé qui est indiscutable, prouvé sur le plan cardiovasculaire, etc., mais qui est moins colossal que de fumer tout le temps. Mais est-ce que ces cigarettes font si plaisir que ça?
Beaucoup de questions sur des méthodes comme l'hypnose, évoquée tout à l'heure par Fabienne Saint. Est-ce que c'est validé scientifiquement? Est-ce que vous, en tant que tabacologue, vous utilisez cette méthode?
Il n'y a pas de validation scientifique claire de l'hypnose pour l'arrêt du tabac. L'hypnose pourrait apporter des choses, et en particulier l'auto-hypnose pour prévenir les récidives, pour voir le côté psychologique, comportemental. Mais toutes ces méthodes, si on est fume, le matin au réveil, de se priver de l'apport de nicotine, c'est une bêtise. Si c'est en complément ou pour des gens qui fument que quelques cigarettes, why not?
Professeur Amin Benyamina, quelles sont les thérapies qui fonctionnent? Je pense peut-être aux TCC, aux thérapies comportementales et cognitives. Vous pouvez nous expliquer dans quel cas ça peut aider un fumeur?
Indiscutablement. Donc ça permet, comme on l'a dit en début d'émission, de faire un peu de séquencer la manière avec laquelle on se retrouve à consommer du tabac alors qu'on sait pertinemment que c'est mauvais. Ça a été très bien dit tout à l'heure par Fabien Sintès. Je sais que c'est mauvais, mais je consomme. Donc on essaye de dérouler séquence par séquence toutes les pensées dysfonctionnelles, soulageantes, permissives, et petit à petit, même à force de répéter, on finit par avoir un phénomène qui fait qu'on est moins conditionné à la consommation du tabac. Et c'est très efficace dans les addictions, dans le tabac en particulier.
C'est validé scientifiquement ?
C'est validé scientifiquement, c'est même mesuré parfois et comparé. Donc ça c'est clair, on le sait, et c'est tout à fait efficace. Évidemment associé à d'autres thérapies comme la substitution nicotinique et qui elle est têtue et biologique.
Non, mais dans la prise en charge des addictions, il y a deux addictions qui sont l'héroïne et la nicotine, sur lesquelles on a une bonne substitution. Donc quand on prend en charge un héroïnomane, d'abord on le substitue, et après on met en cours les méthodes psychologiques. Mais on commence pas par la psychologie avant le substituer. Et pour le tabac, il y a trop de médecins, trop de gens qui commencent à vouloir faire de la psychologie sans être substitués.
Bonjour Gérald, bienvenue.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous avez essayé d'arrêter de fumer, ça fait 25 ans que vous fumez, c'est ça?
Bon, quand j'ai dit 25 ans, c'était même presque un petit peu plus ça, parce que en fait, j'ai commencé un peu comme tout le monde autour de 13-15 ans, j'ai 48 ans aujourd'hui. Mm-hmm. En fait, moi, ce qui a été le déclencheur, c'était un problème médical, puisque j'ai fait un infarctus en 2017, mm-hmm. un infarctus un peu sévère, puisqu'il y a eu un arrêt cardiaque. À mon réveil, le médecin a simplement eu besoin de me dire, voilà Gérald, grosso modo, si vous voulez vivre, il n'y a qu'une seule chose à faire, et ça commence par celle-là, c'est l'arrêt du tabac. Au final, j'ai arrêté plutôt un peu brutalement, mais je considère que c'était une vraie chance, parce que j'avais jamais réussi, moi, à m'auto-déterminer et à prendre la décision, un peu comme tous les fumeurs, je disais, il faudrait que je m'arrête, ce serait bien que je m'arrête, demain j'arrête, cette année j'arrête, sans jamais réussir à le faire. En fait, la décision a été prise à mon corps défendant, mais J'en retire que bon, j'ai arrêté de fumer et surtout que ça n'a pas été si difficile que ça. J'étais accompagné par des patchs, mais qu'au final, ça s'est plutôt bien passé. Je fais du sport depuis 2 ans, j'ai pas pris un kilo, au contraire, j'ai même perdu du poids. Je me considère en excellente forme et pas du tout envie de refumer. Mm-hmm. Merci. Très content de m'être débarrassé de ce poison.
Merci beaucoup Gérald pour votre témoignage. Linda, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission Linda. Alors vous n'arrivez pas à arrêter?
Non, je n'arrive pas à arrêter. J'ai essayé de multiples méthodes, les patchs, les consultations de tabacologie, un fil dans l'oreille, l'acupuncture. Et j'en arrive toujours à la même conclusion, c'est que je n'ai pas de volonté. Et ce qui induit un gros, gros sentiment de dévalorisation, en fait.
Il faut... Professeur Dotzenberg,
clairement, quelqu'un comme vous, il faut, quand vous dites j'ai essayé les patchs, a priori vous avez pris le quart de la moitié de la dose de patch qu'il vous faut. J'ai une malade, je suis monté jusqu'à 18 patchs. Une malade qui avait des problèmes psychiatriques par ailleurs, mais qui avait un problème de la jambe. Son chirurgien ne voulait pas la réopérer d'une pseudarthrose, parce qu'elle avait déjà fait une pseudarthrose avec son tabac, elle ne voulait pas la réopérer, il fallait qu'elle arrête de fumer. On est monté à 18 patchs et elle vapotait comme une folle. Elle descendait 1 ou 2 flacons par jour, elle s'est complètement arrêtée, maintenant elle ne prend plus rien. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que quand on dit qu'on prend des patchs, il faut prendre la bonne quantité. Un diabétique, si vous dites j'ai pris 10 unités d'insuline, j'ai toujours le diabète, bah, il en faut peut-être 20, il en faut peut-être 30, il en faut peut-être 40. Donc il faut adapter la dose, faut venir voir un tabacologue qui n'a pas peur de la nicotine.
Mais il y est allé, Linda, voir.
Oui, mais il y en a qui ont peur de la nicotine, il y a peur autre chose. Mais si vous fumiez avec plaisir des cigarettes en entier avec un patch, c'est que vous n'avez pas assez de patch. Quand on fume avec un patch une cigarette en entier, c'est qu'on est le témoin d'un sous-dosage en nicotine. Donc, il ne faut pas retirer le patch pour fumer. Il faut au contraire remettre un patch.
Mais Linda, qu'est-ce que vous avez envie de dire, hein? Vous avez essayé d'arrêter à plusieurs reprises. Là, visiblement, c'est la bonne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Linda qui n'arrive pas à arrêter?
C'est un petit peu embêtant que de conseiller à quelqu'un qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît surtout pas l'histoire.
Bonne réponse.
Avec le tabac. Moi, je pense qu'il faut que ce soit mûri. Il faut que ce soit mûri, vraiment.
que la volonté, enfin, elle parlait de dévalorisation, c'est-à-dire je n'ai pas la volonté, donc je suis quelqu'un de pas volontaire, etc. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce principe de volonté. On veut toujours arrêter de fumer. Même si on fume avec plaisir, on sait très bien que c'est pas bien et on veut arrêter de fumer. Je pense pas que la volonté soit le bon mot. Ouais. Je pense que c'est plutôt une question de maturité, de se dire à un moment donné, d'avoir analysé toute son histoire avec la cigarette et puis d'éliminer petit à petit tout ce qui représente un frein ou tout ce qui favorise en fait la reprise du tabac.
Merci. Merci beaucoup Mélina d'être intervenue ainsi que Lina. Lina, je ne sais pas si vous avez déjà appelé le 3989. 3989, c'est le numéro de Tabac Info Service. Bonjour Olivier Smadja, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes le responsable, c'est ça, de Tabac Info Service. Oui. Comment ça se passe? J'appelle le 3989. Qui j'ai au bout du fil? Comment se passe un entretien téléphonique quand j'appelle ce numéro?
Alors globalement, quand on est accompagné par Tabac Info Service, le 3989, ça se passe de la même manière que ce que décrivait le professeur Bertrand Dotzenberg dans sa consultation, c'est-à-dire qu'avec un tabacologue de Tabac Info Service, on va faire le point sur sa relation avec le tabac, on va essayer de mesurer les différentes dépendances qu'on peut avoir avec la nicotine ou la dépendance comportementale, on va choisir le traitement qui convient le mieux aux fumeurs. Parfois, on va choisir une date d'arrêt avec le fumeur pour les personnes qui veulent arrêter de manière qui veulent arrêter d'un coup. Et puis, on va identifier des situations qui vont être les situations à risque pour les fumeurs. Quand les fumeurs vont décrire, par exemple, qu'ils ont l'habitude de fumer une cigarette au moment où ils boivent un café ou après les repas, etc., etc., on va essayer d'identifier des stratégies alternatives pour que ces moments difficiles qui appellent la cigarette, les fumeurs puissent les vivre de la manière la plus confortable possible.
Rappelez-nous le numéro de Tabac Info Service, bien utile en cette rentrée, quand on décide d'arrêter de fumer, on appelle le...
Le 3989, c'est un numéro qui est gratuit. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que Tabac Info Service, c'est évidemment la possibilité d'être accompagné gratuitement par des tabacologues. Mais Tabac Info Service, c'est aussi une application qui est accessible sur les smartphones. Et puis toute une communauté sur Facebook qui vient soutenir et accompagner tous les fumeurs dans leur tentative d'arrêt du tabac.
Merci beaucoup Olivier Smadja. Continuez à nous appeler au 01 45 24 7000.
Where I wanna be, where
Cigarettes After Sex. Tiens, Baptiste Beaulieu, je vous ai posé la question, pourquoi est-ce que beaucoup fument après l'amour, mais il a répondu. Donc vous n'avez pas osé.
Non, c'est pour apaiser une tension, voilà.
Voilà, c'est ça.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Un fumeur sur deux va mourir de tabagisme. Un point, c'est tout. La moitié d'entre eux avant 70 ans. Et arrêter est un processus lent. Quoi que vous entrepreniez, c'est déjà ça. De toute évidence, mieux vaut passer à la cigarette électronique que de ne rien faire. Mais nous ne savons pas ce qu'il en sera de la vapoteuse dans 20 ans. Nous n'avons pas de données. C'est une expérience humaine colossale, avec des milliers de personnes qui se mettent soudain à inhaler du propylène glycol 8 heures par jour.
Extrait de l'émission Xenus sur Arte en 2019. Alors, énormément de questions sur la cigarette électronique. On appelle ça des dispositifs électroniques de vaporisation à la nicotine. Vapoter consiste donc à inhaler des vapeurs créées par le chauffage à haute température. Professeur Dotzenberg, quels sont les bénéfices et les risques éventuels avec la cigarette électronique? Expliquez-nous tout.
Donc, la vapoteuse est un produit simple qui chauffe un liquide dont on connaît exactement la composition, avec que des produits pharma qui sont mis dedans, sauf les arômes qui sont des arômes alimentaires, et qui émet une émission qui a la même composition que ce qu'il y a dans le liquide, contrairement à la cigarette où il y a n'importe quoi qui sort dedans. Donc c'est quelque chose qui est pas toxique, il y a pas de cancérogène, il y a pas de monoxyde de carbone, il y a pas de particules fines, il y a rien vraiment de très toxique, si ce n'est de la nicotine, qui est un produit qui est irritant, qui est donné, on essaie de le donner aux mêmes doses qu'on avait avec la cigarette. Donc en remplaçant la prise de sa drogue, la nicotine, par la cigarette électronique, on a une compensation qui peut être parfaite de la prise de nicotine. On a aussi une gestuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui arrête de fumer, même s'il a un patch de pâte, s'il retrouve le soir avec trois amis qui fument, et ben de sortir sa cigarette électronique, c'est une défense, comportementale. Donc la cigarette électronique a les deux avantages. On sait que il y a beaucoup d'essais maintenant qui montrent que c'est un produit probablement intéressant. On attend la preuve définitive. On travaille dessus pour un grand essai dessus pour comparer.
D'ailleurs, l'assistance publique de Paris a besoin de volontaires pour une étude clinique qui s'appelle Ex-Smoc.
Oui, l'étude Ex-Smoc, là, on a déjà inclus 258 patients hier. Il en faut 7-800. Donc, il y a beaucoup de patients à inclure. Et on peut téléphoner au numéro que vous mettrez probablement sur le site pour s'inscrire à Paris, mais aussi à Nîmes, à Caen, dans beaucoup d'endroits. Et on compare cigarette électronique au Champix, qui est le médicament efficace. Et on a beaucoup de succès pour l'instant.
Question de Stéphanie Texi, notre réalisatrice. On peut vapoter pendant combien de temps? On peut vapoter pendant plusieurs années ou est-ce qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter?
Oui. Il y a beaucoup de vapoteurs, surtout ceux qui ont plus de 45 ans, qui fument, qui prennent la cigarette électronique avec ou sans patch et au bout de 6 mois, ils arrêtent tout. Donc ça, ceux-là, c'est à peu près un tiers des vapoteurs. Il y en a qui continuent à fumer et vapoter avec peu d'avantages, et ceux-là, au bout d'un certain temps, ils retombent au tabac. Et il y a ceux qui font que vapoter, et parmi ceux qui font que vapoter, il y a ceux qui vapotent sans nicotine ou quasiment pas de nicotine, qui sont plus dépendants de la nicotine, c'est juste la gestuelle. Et il y a ceux qui restent drogués à la nicotine, comme on avait avec les gommes à la nicotine, les gens qui croquaient des gommes de Nicorette pendant des années.
Le regard d'Amine Benyamina.
C'est quoi la vapoteuse ou la cigarette électronique? C'est un dispositif de réduction des risques. On peut le comparer, tout à l'heure on l'a dit, pour les héroïnomanes, la substitution qui a été une révolution. Ça permet aux gens d'éviter de consommer des produits toxiques. Et on sait ce qu'on consomme, c'est-à-dire la nicotine. Ça, c'est le cadre théorique et légal. D'ailleurs, c'est très codifié. C'est un outil formidable qui est arrivé par hasard. Et ensuite, pour le reste, on aura du temps pour voir comment les choses se passent. Les polémiques n'ont pas lieu d'être.
Quels sont les effets secondaires de la cigarette électronique? Pourquoi est-ce que l'Organisation mondiale de la santé, dans son rapport mondial sur le tabac, ne recommandait pas l'utilisation de l'e-cigarette, de la vapoteuse, comme aide au sevrage? Professeur Dotzenberg.
Parce qu'on n'a pas la preuve que c'est efficace pour arrêter de fumer. Les essais, comme l'essai Ex-Smoke, n'est pas terminé. Bien quand sûr. Ça sera terminé, elle dira, j'en ai la preuve. Pour l'instant, elle dit cependant, l'OMS, que c'est un bon produit, c'est a priori un produit qui aide à arrêter de fumer, mais qu'on n'avait pas les preuves suffisantes. Et de la même chose, l'OMS pour la toxicité dit que c'est clairement infiniment moins toxique, enfin beaucoup moins toxique que la cigarette, mais que c'est pas parfaitement nocif, donc faut pas que les non-fumeurs le prennent, on est tout à fait
d'accord. En quelques secondes, que sait-on de la mystérieuse maladie pulmonaire qui serait peut-être liée à la vapoteuse?
Ça c'est aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Ça c'est des gens qui utilisaient la vapoteuse pour inhaler des huiles de cannabis et des cannabinoïdes de synthèse qui n'ont rien rien à voir avec une vapoteuse. C'est comme si quelqu'un prend une seringue pour s'injecter du potassium. Vous n'allez pas accuser la seringue d'avoir injecté du potassium. Vous allez injecter le potassium qu'on a mis dedans. Donc là, c'est un mésusage massif qui n'a strictement rien à voir avec le vapotage, je pense.
Merci à tous. Merci, professeur Amine Benyamina, professeur Bertrand Dotzenberg. Je rappelle le nom de votre petit livre chez First, Le plaisir d'arrêter de fumer. Ça coûte moins de 3 euros. Et je vous rappelle le numéro de Tabac Info Service, 3989. Demain, France Inter se mobilise contre les violences conjugales. Nous nous intéresserons dans Grand Bien Vous Fasse aux conséquences psychologiques de ces violences qui peuvent conduire à la mort. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.